Sous la coupole. Une émission de la rédaction de Canal Academy.
Mardi 23 octobre 2007, s'est déroulée la séance solennelle de rentrée des 5 académies sous la coupole de l'Institut de France sur le thème « Identité nationale et universalité de l'esprit ». Les 5 académies ont pris l'habitude de solenniser leur rentrée par une série de discours consacrés à un thème commun. C'est une tradition. Ainsi, chaque année, le mardi d'octobre, le plus proche de la date de création de l'Institut, le 25 octobre 1795, s'ouvre cette séance solennelle. Selon l'usage, un hommage est rendu aux académiciens disparus pendant l'année écoulée. Cette année, la séance solennelle revêt un caractère particulier. Elle constitue en effet la clôture de la rencontre des académies européennes qui a réuni plus de 60 représentants des académies venues de l'Europe entière. Le chancelier de l'Institut de France, Gabriel Debreuil, et les secrétaires perpétuels des 5 académies sont à l'origine de cette invitation. Cette année, dans la perspective de cet événement exceptionnel et pour la première fois dans le cadre de cette séance solennelle de rentrée, les 5 académies ont délégué un membre associé de leur compagnie. L'Académie française n'ayant pas d'associé étranger, son secrétaire perpétuel, Hélène Carrère-Dancos, a prononcé un discours. Au cours de cette séance, placée sous la présidence d'Hélène Carrère-Dancos, qui est à la fois présidente de l'Institut et secrétaire perpétuel de l'Académie française, sont intervenus Son Altesse impériale et royale Otto de Habsbourg, membre de l'Institut, associé étranger de l'Académie des sciences morales et politiques, de l'Académie royale des sciences morales et politiques d'Espagne et membre de l'Académie internationale de culture portugaise. Baron Robert Jones, membre de l'Institut, associé étranger de l'Académie des beaux-arts, secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique et membre de l'Académie royale de langue et de littérature française. Fotis Kafatos, membre de l'Institut, associé étranger de l'Académie des sciences, membre de la Société royale de Londres et membre de l'Académie pontificale des sciences. Emilio Marin, membre de l'Institut, associé étranger de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, membre correspondant de l'Académie pontificale d'archéologie et membre de l'Académie royale des belles-lettres de Barcelone. Enfin, Hélène Carrère-Dancos, secrétaire perpétuelle de l'Académie française. Canal Académie vous propose d'écouter la retransmission de cette séance solennelle de rentrée des 5 académies tout à fait exceptionnelles. Retrouvons sous la coupole le président de l'Institut Hélène Carrère-Dancos, secrétaire perpétuelle de l'Académie française.
Monsieur le ministre et chers confrères, monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale, madame et messieurs les ambassadeurs, messieurs les sénateurs, Monsieur le grand chancelier de la Légion d'honneur, messieurs les présidents, messieurs les secrétaires perpétuels, mesdames et messieurs, chers confrères, la séance solennelle de rentrée des 5 académies, qui selon l'usage se tient le mardi le plus proche du 25 octobre, date de création de l'Institut en 1795, revêt cette année un caractère particulier. En effet, elle vient clore une réunion européenne de ce que l'on appelait au grand siècle la République des lettres, c'est-à-dire la communauté des savoirs de toute l'Europe. Depuis samedi, 79 membres des 61 académies issues de 35 pays d'Europe se rencontrent à l'Institut, au Palais, voire à Chantilly ou au musée Jacquemart-André pour retrouver le chemin de la discussion sans être arrêtés par des frontières ou des barrières linguistiques dans une Europe toujours plus ouverte et chaque jour plus unie. C'est au moment choisi par le chancelier Gabriel Debreuil pour inscrire au fronton de notre deuxième cours sur un double cadran solaire cette devise « Horas tuas qua breves immortalibus operibus vove » puisque tes heures sont courtes, c'est à des œuvres immortelles qu'il te faut les consacrer, que notre réunion invite tous les hommes de bonne volonté à se consacrer à la construction de la concorde, de l'harmonie et de la prospérité pour tous les peuples du vieux continent, qu'il s'agisse de ceux qui ont retrouvé la liberté à la fin du siècle dernier ou de ceux qui avaient la chance de ne pas en être privés. Cette séance solennelle conclut ces réunions riches de nombreux débats et fructueuses de toutes nos rencontres. Mais avant de donner la parole aux délégués des académies, j'ai le triste devoir de rappeler la mémoire de tous nos confrères disparus depuis la dernière séance de rentrée qui eut lieu le mardi 24 octobre 2006. Nous avons perdu à l'Académie française Bertrand Poirot-Delpech, Jean-François Degnaud, Henri Troyat, Pierre Moineau, René Raymond, le cardinal Jean-Marie Lustiger, que l'Académie avait élu le 15 juin 1995, archevêque de Paris depuis 1981, ce grand théologien apporta à l'Académie son prestige, une personnalité exceptionnelle qui avait su unir dans sa réflexion et dans sa foi l'Ancien et le Nouveau Testament. Pierre Messmer, mais j'y reviendrai. À l'Académie des inscriptions et belles-lettres, Colette Caillat, dont la générosité post-mortem a permis de créer une fondation dédiée aux études indiennes à l'Institut. Henri Metzger, François Chamou, parmi les correspondants, Marcel Durlia. À l'Académie des sciences, Guy Horisson, Gustave Choquet, François Morel, Pierre-Gilles Degène, prix Nobel. Parmi les associés étrangers, Brébis Blinet, Knut Schmidt-Nielsen, Albert Cotton, Francis Howell, André Maréchal. Parmi les correspondants, Adrien Douady, Jean Echibia, Maurice Jacob, François Brua. À l'Académie des Beaux-Arts, Jean-Marie Granier, Christian Langlois, le mime Marceau. Parmi les associés étrangers, Mstislav Rostropovitch, dont chacun se souvient qu'il joua Bach sur les décombres du mur de Berlin. Parmi les correspondants français, Paul Mémon, Max Douy. Parmi les correspondants étrangers, Ingmar Bergman. À l'Académie des sciences morales et politiques, Jean-Marie Zembe, Édouard Bonnefous, qui a été chancelier de l'Institut de France de 1978 à 1993 et qui a généreusement doté une fondation abritée à l'Institut dédiée à l'histoire, à la science politique et à l'histoire des idées politiques. Henri Amouroux, Raymond Barre, ancien Premier ministre, universitaire prestigieux, qui aura formé des générations d'étudiants à la réflexion économique et donné à ses compatriotes l'exemple d'un sens de l'État rigoureux et désintéressé, et aussi travaillé durant toute son existence au progrès de l'Europe. Pierre Messmer, j'y reviendrai, je l'ai déjà dit. Parmi les associés étrangers, Karl Friedrich von Weizsäcker, parmi les correspondants Sergio Cotta, Monseigneur Bernard Jacqueline. À cette trop longue litanie qui déroule devant nos yeux, comme dans un film muet, le visage de tant de confrères admirés et regrettés, je dois enfin rappeler, je l'avais dit, le souvenir de Pierre Messmer, membre tout à la fois de l'Académie française et de l'Académie des sciences morales et politiques, et qui a été le chancelier de l'Institut de 1999 à 2005. En un septennat, il éleva notre maison commune en lui donnant les moyens de son rayonnement et de son indépendance, en un mot de sa grandeur. Pierre Messmer était une figure de légende. Malgré la pudeur qui le caractérisait, il avait noué avec les académiciens, écrivains, savants, érudits, chercheurs, artistes, des liens profonds de respect, et avec bon nombre d'entre nous, comme avec les mécènes, chers à son cœur, qui lui avaient confié les moyens de leur générosité, il avait des relations de réelle affection. Si la Légion étrangère, et avec elle les Compagnons de la Libération, furent sa première famille, à n'en pas douter, l'Institut fut sa seconde. En sa mémoire, en leur mémoire à tous, je vous propose d'écouter l'ouverture de l'Alléluia de Marius Constant, membre de l'Institut de France, d'origine roumaine, interprété par le trompettiste Guy Touvron.
Thank you.
Cette ouverture de l'Alléluia, vous l'aurez compris, est la manière dont nous avons choisi aujourd'hui d'observer notre habituelle minute de silence. Je vais maintenant donner la parole aux orateurs délégués pour chacune des cinq académies. Il faut souligner ici que pour la première fois depuis 1795, des associés étrangers de nos académies ont été invités à parler sous cette coupole, puisque quatre de nos compagnies élisent des membres étrangers qui contribuent aux échanges savants à travers le vaste monde. Interviendront successivement Son Altesse Royale et Impériale, l'archiduc Otto de Habsbourg, délégué de l'Académie des sciences morales et politiques, pour la lecture de son discours intitulé « Aujourd'hui, qu'y a-t-il d'universel dans l'esprit européen ?» Monsieur Philippe Robert Jones, délégué de l'Académie des Beaux-Arts, pour son discours « Les liaisons difficiles ». Monsieur Fotis Kafatos, délégué de l'Académie des sciences, pour son discours « Identité nationale et européenne et universalité de la science ». Monsieur Emilio Marine, délégué de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, pour son discours « Le curé de campagne et le prix Nobel face à l'histoire ou l'enjeu de l'Europe et de la Méditerranée ». Ayant moi-même été désigné pour prononcer le discours de l'Académie française, je prendrai enfin la parole pour un discours intitulé « La langue française, de l'identité à l'universalité ». Mais je veux, sans plus tarder, donner la parole au premier orateur, Son Altesse impériale et royale, l'archiduc Otto de Habsbourg, délégué de l'Académie des sciences morales et politiques, et également membre de la Real Academia des Ciencias Políticas en Espagne, pour la lecture de son discours intitulé « Aujourd'hui, qu'y a-t-il d'universel dans l'esprit européen ?»
Madame le Président, Mesdames et Messieurs les membres de cette illustre compagnie, un des hommes les plus remarquables de notre époque, le pape polonais Jean-Paul II, avait exprimé à son entourage à la fin d'une agonie très douloureuse la demande de ne pas le pleurer car lui était profondément heureux. Il y avait un nombre de personnes qui ne comprirent pas, sauf dans le contexte religieux, ce que le souverain pontife mourant disait. En réalité, les personnes de son époque ont exprimé parfois ce sentiment sans son contexte religieux, mais qui renforce ce que le pape a dit. Ceux qui ont atteint son âge savent ce que l'on a progressé de nos jours si nous songeons aux tyrans qui ont disparu comme Hitler ou Staline et à la fin d'un nombre de frontières dans leur sens archaïque ont disparu. C'est là notamment le cas pour l'Europe centrale et orientale avec des pays petits mais aussi les nouvelles frontières souvent artificielles, qui ont été établies en grande partie après 1918 et l'accord de Yalta, et qui, de nos jours, disparaissent pour la première fois de façon pacifique. Il reste les tyrans, mais ceux-ci qui se trouvent beaucoup plus sous la pression de l'opinion publique que dans le passé, de la guerre de 1918. En même temps, certaines idéologies, telles le totalitarisme, sont en retrait. Ils ne sont en réalité que le transfert et d'idées pseudo-religieuses sur un plan où il n'y aura aucune justification, comme la politique. Celles-ci n'ont pas encore disparu, même chez nous en Europe, alors que malheureusement, sur certains autres plans de le totalitarisme, a encore une tendance de s'étendre. Une autre idée, le nationalisme, est encore toujours vivante dans certains pays, surtout suite des confusions dangereuses. on confond trop souvent deux idées fort différentes, le nationalisme et le patriotisme. Le patriotisme aime son pays et sa nation et respecte les autres, alors que d'autre part, le nationaliste est un adorateur de son pays et de son peuple, mais en même temps aussi ne respecte pas les autres. Cette distinction est caractérisée par un des grands de notre époque, le général de Gaulle, qui, dans toutes ses déclarations, et notamment sur les relations franco-allemandes, a toujours été le symbole du patriotisme envers la France, même en même temps montrer le respect pour l'Allemagne. Même pendant la guerre entre les deux pays, de Gaulle, alors qu'il était chef de la France libre, avait déjà déclaré qu'un jour des buts et d'un ordre nouveau seront non seulement une reversion et surtout un changement du traité de Verdun, c'est-à-dire de la division entre les héritiers de Charlemagne, mais aussi de préparer la nouvelle entente des Francs, sous une forme d'ailleurs moderne. Le général de Gaulle, revenu sur terre française, l'avait exprimé dans son fameux discours de Bordeaux et dans les différentes déclarations successives qui formulaient déjà cette notion de patriotisme qui avait été oblitérée par les nationalistes, alors que lui appellera, dans un tout autre contexte, la paix des braves. En cela, on a encore trop peu souligné le rapport entre le général français d'un côté et l'Europe de l'autre, dont l'apôtre était Koudenov Kalergi, un Autrichien dont la mère était originaire du Japon et qui unissait dans son idée européenne les vertus des anciennes grandes communautés de notre continent. La France, l'Allemagne, le Saint-Empire et l'Autriche avec ses nationalités multiples. Nous trouvons en effet dans les enseignements de Koudenov et du général de Gaulle cette idée de l'Europe à laquelle on donne aujourd'hui chez nous la notion d'union, c'est-à-dire d'une unité dans la diversité. Ceux qui ont le privilège de voyager souvent en dehors de cette union savent que celle-ci est un exemple à travers le monde pour d'autres problèmes similaires à ceux de l'ancienne Europe et à laquelle il faudra tôt ou tard trouver une réponse adéquate dans l'idée européenne de la subsidiarité et du fédéralisme. Bien entendu, le progrès de ces idées exige, dans une durée adéquate, sur de longues distances, comme toute autre idée nouvelle. Son progrès se traite en avant et tout autre. Aujourd'hui, sur le plan des pensées, et c'est là un très grand devoir de l'Europe telle que nous voulons la créer. L'Europe, c'est d'abord la question des frontières. Nous ne voulons pas de frontières nouvelles. Nous avons spiritualisé des frontières par la liberté de circulation, sans porter attente aux identités nationales. Nous voulons maintenant réduire tout ce qui crée les frontières entre les peuples, tout ce qui, dans une conception mal comprise de la souveraineté nationale, les empêche de se rapprocher. pour continuer de se relever après les drames du XXe siècle, l'Occident doit comprendre quelle est sa tâche, repenser sa position dans le monde et revenir aux principes fondamentaux qui avaient fait sa grandeur. Ce sera difficile, la retient la pente, mais tous assisteront déjà à un certain retour des valeurs traditionnelles, qu'il s'agira des valeurs religieuses et collectives ou des valeurs presque personnelles. Aussi, l'avenir n'est-il pas si noir que ce qu'on croit en général. N'oublions pas en ce contexte pour l'Europe deux points. D'abord, que l'Europe a été créée par des idées religieuses, car qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, dans un grand nombre de pays européens, la religion est aussi forte aujourd'hui qu'elle ne l'était dans le passé. Cela n'est pas surprenant, puisque si l'on veut une survie de notre continent après la mort, ou des personnes après la mort, c'est une des étapes de notre existence qui va compter beaucoup parce que la survie après la mort est plus longue. On ne peut pas oublier le fait religieux qui continue d'être de tout premier ordre une attitude de laïcité mal comprise élimine le facteur religieux et ne peut donc pas servir à longue échéance. Il y a en ce contexte aussi l'importance des droits de l'homme, car ceux-ci doivent avoir un fondement qui donne une position de force vis-à-vis des autres éléments de la création. Le fait religieux reste donc capital en l'organisation de l'idée européenne. Ceci existe à travers l'histoire et aura aussi l'influence dans l'avenir. J'ai personnellement la conviction profonde que les droits de l'homme sont basés sur la notion que l'homme est une créature de Dieu auquel on ne peut pas nier un certain nombre de droits inaliénables. C'est là le territoire de la religion qui va jouer un rôle dans la défense des droits de l'homme, car il est manifeste. Les droits de l'individu ne peuvent pas être, en tant que droits fondamentaux, dépendants de majorités changeantes ou de la volonté d'un potentat. Cela s'applique d'ailleurs aussi aux droits des collectivités humaines, comme sont les nations majoritaires ou minoritaires. L'Europe, en tant que facteur le plus dynamique sur le plan des idées et des concepts publics, a pour cela une tâche spéciale pour non seulement prêcher, mais de donner aussi l'exemple. Quant à l'Europe elle-même, elle doit à la longue déterminer ses frontières. Quand on sent l'évaluation en général, on pourra arriver à la pensée que la création véritable de l'Europe est de longue durée. Elle sera déterminée par les facteurs culturels qui unissent. C'est aussi le rôle de la Méditerranée qui devrait être un élément d'union plus que de division. Nous avons autour de la Méditerranée trois grands groupes d'entités religieuses, et c'est-à-dire le judaïsme, le christianisme et l'islam. Ceux qui veulent voir les situations telles qu'elles sont, ils trouveraient beaucoup d'éléments contigus. Le grand penseur de chaque côté en sont la preuve, et c'est entre autres Saladin, chez les musulmans et chez les chrétiens le vénérable Raymond Lull, qui dès le XIIIe siècle, dans ses études aux Baléares, avait souligné qu'il y avait beaucoup de communs entre l'islam et les églises chrétiennes, et que, par conséquent, pour l'avenir, il s'agissait de trouver une coopération effective et surtout d'élaborer ce qui unit plus que ce qui divise. Il est malheureux qu'aujourd'hui, encore la mémoire de ce grand penseur qui a été en même temps un saint de l'Église chrétienne ne soit pas encore assez connu chez nous. Les trois communautés religieuses ont beaucoup de communs et il faudrait renforcer cette union qui est indispensable pour l'ordre et la paix dans le monde. C'est là un rôle que le facteur religieux peut jouer dans le dialogue des forces divergentes et il est heureux que, du moins du côté chrétien, le rapprochement soit visible tel qu'il s'agit, par exemple, de personnalités importantes des derniers temps, comme le furent la mère Thérèse et le président Rugova du Kosovo. Isabelle la catholique d'Espagne, dans son testament, écrivait que la Méditerranée ne sera jamais une frontière aussi longtemps qu'il s'agira d'établir la paix, mais au contraire, un bien commun est que, au-delà de l'Union européenne, il faudra songer aussi à une union des peuples qui entoure la Méditerranée dans une forme qui certainement ne sera jamais une union comme c'est l'union des États, mais une entente nouvelle sui generis qui pourrait être le point de départ qu'un facteur de paix mondiale. C'est là aujourd'hui la tâche la plus capitale qui soit donnée à l'Europe. Donc, tout d'abord, s'unir en tant qu'Europe, puis étendre celle-ci aux différentes nations ayant hérité des trois grands groupes religieux. Nous arriverons aussi, sur le plan spirituel, à un progrès qui est indispensable dans le débat sur les racines spirituelles et religieuses de l'Europe. Quand on a aujourd'hui l'opportunité de voyager dans des pays récemment libérés de la tyrannie totalitaire, on verra que ces dernières n'ont jamais réussi à produire la beauté, car celle-ci est le fruit du spirituel, qu'elle vienne des juifs, des chrétiens ou des musulmans. Cela servira à l'unification chaque jour plus décisive du monde face aux problèmes considérables qui seront déterminés par le développement scientifique et technique et les conséquences pour la paix dans l'âge nucléaire. Bien entendu, ce chemin sera long et très ardu. Il faut réunir néanmoins la peine. C'est là que les académies, l'entente des hommes et des femmes de pensée, doivent jouer un rôle capital. On peut donc dire « l'idée européenne est avant tout une vision de paix, en dépit d'un passé guerrier ». C'est l'argument principal pour développer l'idée d'un pays qui, à l'époque du Moyen-Âge, était appelé la Treuga Dei, la trêve de Dieu. C'est la trêve de ces pays, de ces pensées religieuses et autres, qui sont la tâche principale à laquelle, à longue vue, l'Europe devra s'atteler, car c'est elle qui a la responsabilité de l'initiative. Permettez-moi, pour conclure, d'évoquer un épisode de mon histoire personnelle qui concerne l'Institut de France. En 1978, pour pouvoir être élu au Parlement européen, j'ai souhaité obtenir la nationalité allemande. Or, c'est grâce à mon appartenance à l'Institut de France que je l'ai obtenue. Je ne voulais surtout pas abandonner ma nationalité autrichienne et hongroise. Il me fallait donc acquérir la double nationalité. Les Allemands se accordaient la nationalité à titre honorifique à des professeurs, à des membres de grandes académies internationales, bref, à des intellectuels de renom et encore, troisième catégorie, à des joueurs de football célèbres. Comme je ne suis pas joueur de football, c'est par le fait d'être membre de l'Institut de France que je suis parvenu à devenir un parlementaire européen. Le jour où j'ai reçu la nationalité allemande, j'assistais à une réception que donnait Franz Josef Strauss dans le cadre d'une conférence à Wildpartkreuth, dans les montagnes bavaroises. Enfin, voici le retour du Saint-Empire romain germanique, s'exclama quand il m'accueillit. Ce n'est pas le Saint-Empire romain germanique qui est revenu ici, à Paris, répondre à la question « Qu'y a-t-il d'un universel dans l'esprit européen ?» Mais mon destin personnel, moi qui ai eu trois langues maternelles, l'allemand, le français et le hongrois, et que possède quatre nationalités, l'autrichienne, l'allemande, la hongroise et la croate, me suggère cette réflexion conclusive. L'histoire se fait à travers nous. Il ne faut pas l'entraver, mais se mettre à son service là où l'on pense qu'elle va dans le droit chemin. Ainsi ai-je le sentiment profond qu'en bâtissant l'Europe, nous avons fait quelque chose qui changera la face du monde, même si cela ne se voit pas encore aujourd'hui. Nous mettons en mouvement des forces qui nous dépassent et qui ont de grands effets. Déjà, le sentiment national imprègne-t-il autant la jeunesse que les anciennes générations qui ont vécu la guerre? Ils ne le cachent pas. Il en va de même de l'Europe qui intervient dans notre vie quotidienne. Tant que nous tous en apercevons, elle imprègne le plus en plus notre existence. Si elle n'est pas encore une patrie, héritée de nos grands-pères et arrière-grands-pères, elle est déjà une fratrie qui fait que nous soyons des frères et des sœurs. Pour les pays de l'Europe centrale et orientale dont je suis, où je me rends souvent, l'Union européenne est un grand espoir. Être européen ne signifie pas pour ces États qu'ils vont devoir se fondre dans un melting pot. Nous voulons au contraire préserver les langues et les cultures. C'est cela le génie de l'Europe. Les cultures nationales et régionales refleurissent. Imagine-t-on en Occident à quel point l'Europe s'est retrouvée dans sa culture? Mais loin d'être un danger pour l'Union européenne, l'élargissement à ces nations est une chance inouïe de résurrection pour la culture européenne. Et c'est dans ce sens, je crois, que nous devons œuvrer pour l'avenir, car en réalité, l'Europe n'est pas opposée ni au patriotisme, ni au sens de sa nationalité, mais au contraire, est une idée de synthèse, une idée de paix et surtout une idée d'avenir. Et c'est là Mesdames et messieurs et madame le président, notre devoir dans les années à venir. Je vous remercie.
Merci, Monseigneur et chers confrères. La parole est maintenant à Monsieur Philip Robert Jones, délégué de l'Académie des Beaux-Arts et secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, pour la lecture de son discours intitulé « Les liaisons difficiles ».
Madame le Président, Monsieur Chancelier, mes chers confrères, Mesdames, Messieurs, le thème intitulé « Identité nationale et universalité de l'esprit » pourrait être un chemin à poursuivre en art. Mais les rapports entre les deux termes de la proposition sont instables et les raisons, les liaisons, ne sont pas toujours simples à définir. Qu'est-ce que la création ? C'est peut-être l'urgence de la réponse dans un langage pictural, musical ou écrit, à une émotion ou à un questionnement intime et obsédant. Gardons, si vous le voulez bien, cette relation aussi générale et vague que possible. Au départ, il y a donc une étincelle, le verre donné selon Paul Valéry, le démarreur, pour être plus prosaïque. Le trajet s'appuie sur un itinéraire plus ou moins connu, menant d'un point à l'autre, et accompli de manière harmonieuse ou économe, intense ou rapide, selon l'humeur du moment. Les conséquences ne présenteront guère d'innovation formelle, puisque l'itinéraire est tracé d'avance. L'enracinement de l'art offrait, par le passé, la spécificité d'écoles nationales et locales, italiennes, françaises, flamandes, anglaises, parmi d'autres bien sûr, et se caractérisait par une expression ou un rendu typique. Les sujets, quant à eux, étaient identifiés, figures, portraits, paysages, nature morte. Ils pouvaient même être identiques lorsqu'ils évoquaient des scènes religieuses dans les limites du monde dit civilisé d'alors. Des modifications sensibles existent néanmoins. Si l'on compare l'église romane à l'église gothique, la différence est notable. La confidence de la première et celle du recueillement. L'espace que l'autre évoque sera celui de l'exaltation. Cette divergence est due à la créativité du maître d'œuvre, rendue possible par les progrès techniques, et peut répondre à des soucis théologiques, sociologiques ou politiques. Tout, en effet, est explicable a posteriori dans la volonté de rendre hommage au spirituel comme au temporel. Le mental de ceux qui fréquentent ou subissent de telles architectures peut même se modifier. Le roman, par son espace relativement clos, prend sous sa garde l'âme qui se confie. Le gothique peut écraser par sa magnificence ou son altière domination. Les rapports entre identité et universalité sont ici respectés. La création contemporaine, surtout dans le domaine des arts plastiques, s'oriente de plus en plus vers la recherche de l'inattendu et du spectacle. Cette tendance répond à une volonté d'actualisation, au désir de créer du jamais vu, une originalité d'apparence en lieu et place d'une résonance de nécessité. À cette démarche s'opposent deux attitudes. Celle de l'élaboration d'une œuvre qui appelle forcément la durée et celle que l'on entend par le terme d'académisme au sens péjoratif du vocable. L'académisme indique, ou implique plutôt, une répétition techniquement exemplaire d'une donnée acquise, une reproduction parfaite du déjà vu. L'acte possède alors la vertu de rassurer celui qui l'accomplit et le spectateur. La notion d'élaboration, quant à elle, suggère, au-delà de l'image furtive entrevue, qui n'est pas forcément réaliste, la conquête ardue d'un vocabulaire expressif permettant de construire et de donner vie. Il y a là forcément innovation, quel que soit le style choisi. Dans l'un et l'autre cas, l'objet qui en résulte sera-t-il accepté comme incarnant l'actuel ? Peut-on trancher ? Tous les néos sont possibles. La mode allonge ou raccourcit les jupes, ajuste ou amplifie le vêtement. Tout est faisable, du figuratif à l'abstrait, conceptuel ou néo-dadaïsme compris. Une bicyclette en rouge et vif et or, présentée dans une salle de musée, serait peut-être plus étonnante que le fut la roue de Marcel Duchamp en 1913. Mais à seconde vue, sans doute serait-elle dépassée, mise à distance de ce que le présent requiert. Déjà, une installation de l'an dernier ne subit-elle pas aujourd'hui le même sort lorsque l'étonnement s'éteint ? Avec Marcel Duchamp, l'art modifie sensiblement son optique. La Fontaine de 1917, ce ready-made, cet urinoir, cet objet préfabriqué, dérouté de ses fonctions et par là même provocateur, crée forcément la surprise, mais non l'émotion. Cette émotion continue d'habiter chaque centimètre carré de Paul Klee, comme elle ne cesse de prier sur l'oiseau dans l'espace de Brancusi, par exemple. Mais parce que dans ces deux derniers exemples, l'œuvre est le fait de la main et de l'esprit de l'homme, tandis que l'urinoir n'est que la conséquence d'un glissement inattendu d'une idée et d'une convention. Visitant le musée de Stockholm au début des années 90 du siècle passé, je retrouvai la dite fontaine et j'écrivis ceci. Le seul attrait qu'elle gardait me semble être le caractère historique de l'objet dans l'évolution formelle de sa catégorie, c'est-à-dire celle de l'équipement sanitaire. La vertu de transgression était morte et Duchamp devint un jalon dans la geste artistique, tel un signal routier qui indiquerait une voie sans issue. L'artiste fut-il encore créateur de poids, un créateur de poids, après ses ready-made, ses appropriations du réel qui occupent une place importante dans l'histoire de l'art. L'acte demeure avant tout. C'est l'avis aussi, me semble-t-il, de l'artiste allemand Anselm Kiefer, qui jouit aujourd'hui d'une réelle notoriété, puisqu'il fut accueilli en mai dernier, ici au Grand Palais, et qu'il sera, nous dit-on, le grand invité du musée du Louvre en novembre prochain. Kiefer déclarait récemment à la presse, et je le cite, il y a aujourd'hui une telle prolifération d'œuvres, de musique, de messages, qu'il n'y a plus de frontières à abolir. Je ne veux pas dire par là que Duchamp ait eu tort d'exposer son urinoir dans une galerie. Quand il a fait la première fois, c'était extraordinaire, mais la deuxième fois, ce ne l'était plus. Peut-être cela gardait-il une signification, mais la troisième fois, l'urinoir n'était plus qu'un urinoir. L'art et la vie sont deux choses différentes. La liaison entre l'identité et l'universalité est ici rompue. Si l'universalité demeure, l'identité n'existe plus. Celle-ci n'est plus nationale, elle devient personnelle et se veut sans frontières, puisque l'objet en question est au service d'une moitié au moins de la population mondiale. Le surréalisme, qui est postérieur, on le sait, à la révolution artistique incarnée par Marcel Duchamp et par les suiveurs qui en ont phagocyté l'héritage, le surréalisme allie encore les origines inhérentes à l'individu et les effets inattendus qu'il s'exprime. Prenons deux exemples sans point commun au départ, le Belge René Magritte et Wilfred Olam, l'Américain du Sud. Par sa technique, le plus souvent précise et sage, pour créer des représentations surprenantes, René Magritte est davantage un imagier qu'un peintre et s'inscrit plastiquement dans le savoir-faire de l'art occidental. Wilfred Olam bouleverse ses œuvres d'éléments afro-cubains et d'une végétation luxuriante que son terroir lui offre. Magritte, par conséquent, est belge par la tradition picturale et universelle par ce qu'il peint. L'âme est exotique par son exubérance formelle et accessible à tous. Ils appartiennent tous deux au mouvement surréaliste qui préconise, selon la volonté d'André Breton, l'automatisme psychique pur, à savoir libre cours aux pulsions de l'inconscient, une libération totale du moi profond et qui ne peut s'exprimer que dans un langage conditionné par un vécu personnel. Le mouvement reste donc inhérent à l'universalité, mais se réclame selon une originalité qui relève d'une culture, d'un enseignement local ou national. Ainsi, Max Ernst, l'un des plus grands acteurs du surréalisme, de formation germanique, traduit-il ses origines par la densité thématique de ses œuvres, son attachement au sujet forestier, proche du romantisme allemand, d'un Novalis, et il ajoutera, et je le cite, « Mes yeux étaient avides non seulement du monde étonnant qui les assaillait du dehors, mais aussi de cet autre monde mystérieux et inquiétant qui jaillissait et s'évanouissait dans mes rêves d'adolescent avec insistance et régularité. » Fin de citation. Par ailleurs, le site de Cadaqués en Catalogne figure dans plusieurs tableaux majeurs de Salvador Dali, de même souvent la mer, le sable et les concrétions drossées par les vagues se retrouvent dans les tableaux d'Yves Tanguy, quelquefois nommé le Breton. L'identité et l'universalité demeurent sans cesse nouées. L'expression contemporaine s'est enrichie de moyens nouveaux. La photographie et le film font déjà, et il était temps, partie de l'Académie. Dans la classe des beaux-arts de l'Académie royale de Belgique, la section concernée se nomme, je cite, « peinture et art apparentés », ce qui permet la présence de tous, et toutes les confusions d'ailleurs, mais la porte demeure ouverte. L'espace muséal d'aujourd'hui ne se réduit plus à des cimaises recouvertes de rectangles de toile peinte, il pourrait à la limite être un espace vide où chaque visiteur aurait l'occasion d'accrocher ses propres fantasmes. Si la création est proche de la psychanalyse, son langage devrait être audible, accessible et ne pas être qu'un mode d'emploi au risque de se transformer en jeu de société. Le manifeste, la mise en garde, se révèle utile pour annoncer au spectateur le sens de l'objet qui lui est proposé. Une recherche sur la mobilité, sur la lumière, sur les matières, la répétition. Chaque aspect de l'œuvre, chaque gramme est sujet à questionnement, à peser, à investigation. Les autostrades, mais aussi les voies secondaires et les chemins de terres et de cailloux sont inventoriés dans la quête éperdue d'une découverte. Au-delà d'une œuvre originale à retrouver, la qualité foncière de son intonation reste essentielle cependant. Une marge de non-dit entre le souhait et l'accomplissement sera maintenue, car c'est dans cette marge que l'émotion doit exister. Ainsi, l'auteur de la Strada et de la Dolce Vita, notre regretté confrère Federico Fellini, était nourri de tous les sucs de l'Italie pour illustrer l'universalité du comportement humain. L'art ne peut jamais déboucher sur une démonstration s'il désire retenir le regard d'autrui. C'est pourquoi la création contemporaine gagne toujours à s'appuyer sur des notions de mémoire et de recherche, afin de connaître, critiquer, estimer s'il y a un approfondissement, une résurgence, un éveil nouveau ou simplement un effet. Si Rubens n'a pas inventé le baroque, il en fit un usage génial. Si Cézanne ne fut pas un cubiste, son œuvre en a conditionné l'éclosion. Tout cela mérite bien sûr nuance, mais a néanmoins la vertu de mettre les choses en perspective. Ces constatations sont-elles réservées aux œuvres du passé seulement ? La parole du créateur, les remarques de l'historien, les recherches du philosophe, du psychologue ou du scientifique sont nécessaires, non pour juger, glorifier ou exclure, mais pour situer l'objet étudié dans l'humain et pour savoir s'il procède d'un effet de mode ou non. La mode existe et sera toujours existante, mais elle n'a qu'un temps, bien qu'elle puisse ressurgir. Ainsi, par exemple, le symboliste Fernand Knopf fut-il rejeté dès 1920 environ pour être redécouvert à la fin du siècle et rangé parmi les peintres importants parce qu'un certain académisme figuratif et le goût de l'insolite l'habitaient, goût auquel le surréalisme n'était pas étranger et lui ont donné une nouvelle vie, si l'on peut dire. Le monde est aujourd'hui assailli par un grand nombre d'apports qui s'accumulent par globalisation ou qui se diversifient par régionalisme. Ces éléments proviennent de lieux distincts, d'autres civilisations, des arts premiers aux pierres de rêve. L'attention est donc requise pour éviter tout jugement hâtif, tout réflexe hostile. Dans ce monde pressé, haletant, l'art ne serait-il pas doué de lenteur ? Les racines ne sont plus à arracher. Elles peuvent induire de nouveaux surgeons. Elles ont fusionné en de plus grands ensembles. Les croisements peuvent être porteurs. L'adversaire premier de l'art est la valeur vénale, qui n'est qu'un mobile, une fuite en avant, jamais une fin en soi. L'individualisme de notre temps permettra-t-il de concevoir une réelle universalité de l'esprit ? La question se pose devant la confusion qui est celle des arts, comme elle est aussi celle du monde, comme elle le fut sans doute toujours. Dans le noyau vivant de l'homme gît cependant l'intuition, qui favorise la possible naissance d'un individu ouvert à ce qui l'entoure. Nature et culture ne sont pas antagonistes. La semence ne pénètre qu'un sol disponible. Notre entendement doit être tel et s'ouvrir aux échanges de vues. Parler, écouter, interpeller, discuter. Ces échanges ne doivent pas inclure au départ une esthétique ou une éthique a priori et ne doivent exclure aucune forme d'expression, ni l'art brut, ni le cadrage photographique, ni le rythme du film, ni le climat de la vidéo. Ces approches s'ouvriront alors à une meilleure lecture de notre temps. Elles permettront l'approfondissement des voies esquissées. Elles feront le tri du magma des révélations de l'instant. Et qu'importe, si l'on passe à côté d'un nouveau Rimbaud, c'est l'émotion et la vie qui seront là. Je vous remercie.
Merci, chers confrères. La parole est maintenant à M. Fotis Kafatos, délégué de l'Académie des sciences et également membre de l'Académie pontificale des sciences au Saint-Siège et de la Royal Society au Royaume-Uni pour la lecture de son discours intitulé « Identité nationale et européenne et universalité de la science ».
Madame la Présidente, Monsieur le Chancelier, chers confrères, Mesdames et Messieurs, chacun de nous a de multiples identités, nationales, ethniques, régionales, linguistiques, culturelles. Nous pensons que les identités nationales sont fixées, mais en fait, elles sont malléables. Quand les empires sont apparus, puis ce sont des faits, des frontières nationales ont été déplacées, des pays se sont construits et d'autres ont disparu. Avec eux, les identités nationales ont changé de façon formelle et subjective. Aussi bien les déplacements individuels que de larges migrations ont été fréquents, entraînés par persécution ou par des opportunités. De tels changements, ainsi que les mariages mixtes et le processus d'intégration politique, économique et culturelle ont transformé l'Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ma propre migration hors de la Grèce à la recherche d'opportunités éducatives et scientifiques et mon mariage à l'étranger ont fait de moi un Grec ethnique avec une conscience et une identité multinationale, grecque, européenne et américaine. Les identités ethniques, linguistiques et culturelles semblent plus solides et ont tendance à évoluer plutôt lentement. Cependant, au cours des derniers siècles, la science s'est largement répandue et est devenue un domaine culturel uni qui couvre désormais pas seulement l'Europe, mais une très large partie du monde. Bien sûr, la science a des racines anciennes et diverses. La Grèce, la Chine, l'Amérique précolombienne, le Moyen-Orient, la Renaissance et le mélange transculturel de la Méditerranée l'érudition latine, hellénique, juive et islamique. Cependant, la science est avant tout l'enfant des Lumières, comme l'est la Déclaration des droits universels de l'homme, qui, ensemble, représente un don unique de France à l'humanité. En dépit des abominations des conquêtes coloniales et de l'esclavage, ce don a encadré l'égalité, la dignité, la rationalité et l'affirmation de soi. Il a permis à la science et à la technologie de s'épanouir de façon extraordinaire au cours des trois derniers siècles et de constituer maintenant une affirmation sans équivoque de l'universalité de l'esprit humain. Certes, il existe différents styles d'aborder la science et d'organiser les communautés scientifiques. Cependant, les principes de l'activité scientifique sont universels. La science n'accepte pas les convictions qui ne reposent pas sur des démonstrations. Elle refuse les préférences personnelles ou révélations. Elle soumet toutes les propositions aux critères impitoyables de l'expérimentation, de la concordance avec la connaissance déjà acquise et de la logique. La science n'accepte pas l'idée que des organismes génétiquement modifiés sont dangereux, qu'ils transgressent des limites inviolées de la nature. La science reconnaît comme une réalité vérifiée que des gènes peuvent être transférés entre les espèces distinctes dans la nature. Elle a clairement établi que les organismes complexes peuvent intégrer et utiliser une information génétique nouvelle. Alors, il est hors de question que la science, confrontée aux objections métaphysiques d'un mouvement politique bien organisé dans l'Europe, puisse renoncer à une méthodologie particulièrement riche en potentiel pour augmenter à la fois les rendements et la qualité de la nourriture dans un monde qui va manquer de plus en plus de ressources. De même, la science reconnaît comme une réalité l'évolution biologique qui se poursuit depuis quelques 3 milliards d'années, même si cette réalité est refusée par des fondamentalistes de deux côtés de l'Atlantique. Au cours de notre siècle, le processus de l'intégration européenne est appelé à s'accélérer et revêtir une importance considérable dans toutes les sphères. Il en va de même pour la science. Il y a quelques années seulement, le soutien pour la recherche fondamentale en Europe était limité aux prises de décisions individuelles d'États membres. L'Union européenne voyait ainsi son action limitée à des domaines périphériques, soutien à des recherches jugées utiles pour l'industrie, certains programmes de formation en vogue et les collaborations transnationales. Mais l'aspect crucial, c'est-à-dire un soutien fort permettant de rendre la recherche européenne compétitive à l'échelle mondiale, n'entrait pas dans les attributions de l'Union. La situation a profondément changé au cours de l'année passée. C'est changé à la suite de la création du Conseil européen de la recherche, IRC, qui est créé par l'effort de la communauté scientifique et quelques responsables européens doués d'une véritable vision au sein de la Commission, du Conseil des ministres et du Parlement européen. Le commissaire européen pour la recherche a soumis à un comité de 5 scientifiques hautement respectés le nom de quelques 400 scientifiques éminents de tous les domaines proposés par des académies et des organisations scientifiques à travers toute l'Europe. De cette liste, ce comité a sélectionné 22 savants sur les seuls critères du mérite scientifique pour faire partie à titre personnel du Conseil scientifique du IRC. Le commissaire respectant l'autonomie des sciences, a agréé cette liste et chacune personne dans la liste a accepté la mission. Sept membres du Conseil ont élu à bulletin secret le président Fotis Kafatos et le vice-président Helga Novotny et Daniel Estev. Le Conseil s'est ensuite immédiatement mis au travail en fixant deux programmes majeurs de soutien, l'un pour les jeunes chercheurs en début de carrière et l'autre pour des scientifiques seniors accomplis. Nous avons travaillé avec passion pendant une année, avant même que le IRC ne soit formellement constitué. Nous avons établi une structure d'évaluation de presque 300 scientifiques distingués de tout le monde, regroupés en 20 commissions, et avons lancé le premier cycle de compétition le jour même où le Conseil a été officiellement institué. Le seul critère pour succès est l'excellence des chercheurs et l'excellence du projet soumis. Tout simple. Les candidats peuvent être de toute nationalité. Ils ne sont pas tenus d'être européens, cependant, ils doivent accepter de travailler en Europe. Le très grand nombre de réponses au lancement de cette compétition, plus de 9000 soumissions de scientifiques ayant entre 2 et 9 ans d'activité de recherche après le doctorat, illustre bien l'intérêt considérable que portent les scientifiques à cette démarche. Cette réponse souligne en même temps l'immense demande non satisfaite de la part des jeunes chercheurs désirant travailler en Europe dans tous les domaines, sciences sociales et humaines, sciences du vivant et médecine, et sciences physiques et de l'ingénieur. Le comité d'évaluation a déjà fait une sélection préliminaire et 559 finalistes ont déjà soumis leur proposition finale. En ce moment, nous évaluons ces soumissions et réalisons les entrevues de chaque finaliste. Nous estimons qu'à peu près 250 projets seront soutenus par des sommes moyennes d'1 million d'euros chacun, distribuées sur 5 ans. Malheureusement, en raison de moyens insuffisants, un nombre important de demandeurs, toutes de qualité comparable, ne seront pas soutenus cette année. Monsieur et Madame, il s'agit là d'un appel d'offres couronné d'un grand succès qui repose sur l'initiative claire d'excellence scientifique sans contrainte politique. Son objectif unique est de soutenir de jeunes scientifiques capables de jouer eux-mêmes un rôle d'innovateur plutôt que de servir d'adjoint à des scientifiques seniors bien établis. D'autre part, les résultats de l'évaluation de ce programme serviront certainement comme indicateur important aux institutions scientifiques nationales en leur montrant où se trouvent leurs forces et en suggérant des initiatives pour qu'elles puissent en tirer profit. Une évidence s'impose désormais. Il existe un espace beaucoup plus important que l'on aurait pensé il y a quelques mois seulement pour soutenir la recherche fondamentale d'excellence, l'Europe peut jouer un rôle de premier plan en focalisant son soutien sur des scientifiques hautement créatifs et des idées nouvelles. On peut désormais dire que dans le monde développé, le domaine culturel de la science est véritablement unifié et ouvert à tous. Certes, les communautés de recherche dans les multiples domaines peuvent différer dans les détails de leur politique, mais les principes sont communs. Nous sommes tous conscients que pour avoir une vision claire, nous devons placer nos pieds sur l'épaule des géants, nos prédécesseurs. Nous savons aussi que pour que nos découvertes soient portées à notre crédit, nous devons en présenter dans des publications ou conférences les démonstrations sur lesquelles elles sont basées. Et ces publications permettront à d'autres de vérifier ou peut-être d'invalider nos conclusions. Nous devons permettre à d'autres d'entrer en compétition avec nous-mêmes sur un terrain d'égalité pour de prochaines découvertes, en décrivant clairement nos méthodes et résultats et en partageant nos matériels et les réactifs que nous avons employés dans nos expériences. La puissance de ce partage de la science est considérable et des communautés exemplaires de chercheurs ont fleuri en adoptant un tel code de générosité réciproque, d'ouverture et de confiance mutuelle. Des exemples dans plusieurs domaines proches de mes propres recherches sont deux communautés de généticiens et de biologistes du développement, de la drosophile remontant à leur fondateur Thomas Morgan et du ver Senorhabditis remontant à son fondateur Sidney Brenner. Un exemple plus récent est la communauté de recherche en génomique qui s'est formée dans le secteur publié autour de son leader John Sulston, ainsi que l'ensemble des consortiums publics pour le séquençage du génome humain. En déposant jour après jour toutes les données originales du séquençage dans une banque publique totalement et librement accessible à tous, les membres de ce consortium ont permis que la connaissance de l'ADN humain soit un héritage partagé que tous les humains pourront interpréter et utiliser pendant des décennies et siècles à venir pour permettre un développement et une exploitation raisonnable pour des options futures en médecine post-génomique telles que les diagnostics, le développement de médicaments ciblés ou la médecine régénérative. L'avènement de l'ère numérique a offert la possibilité technique à tous les scientifiques où qu'ils travaillent d'avoir un accès libre et aisé à toutes les informations et notamment aux découvertes faites par leurs collègues à travers le monde. Pour que cette possibilité devienne effective, la littérature scientifique doit être numérisée et accessible le plus rapidement possible et gratuitement. Certes, une période minimale peut être ménagée avant la mise en ligne des publications afin de permettre aux éditeurs et aux sociétés savantes qui publient des journaux de couvrir les frais et réaliser un niveau raisonnable de profit. 6 mois d'intervalle entre la publication sous forme papier et le libre accès sous forme numérisée sont à l'heure actuelle une pratique courante. N'oublions pas que c'est la communauté scientifique qui produit et interprète les résultats et qui fait l'analyse critique des manuscrits avant leur publication. Cette communauté est donc en position de force pour préconiser un accès ouvert à la littérature scientifique. Sur ce point, un consensus est d'ailleurs en train de se dégager. L'enjeu n'est rien moins que d'assurer l'équité pour tous les pays du monde, et pas seulement pour les pays développés, à la participation à l'universalité de l'esprit. Les bibliothèques ont toujours été le trésor de la créativité humaine, de la pensée et du savoir. Dans ce contexte, il vaut la peine de citer les mots d'Antonio Panici, au début du 19e siècle, directeur de la bibliothèque du British Museum, qui l'a dit: « Je veux qu'un étudiant pauvre ait le même moyen d'assouvir sa curiosité, de savoir, pour développer ses raisonnements, de consulter le même traité faisant référence et d'approfondir la quête intellectuelle la plus intriguée de la même manière que l'homme le plus riche du royaume. » Mais nous devons faire plus. De grandes fondations de mécènes, telles que la Fondation Bill et Melinda Gates, réalisent des investissements importants pour mettre sur pied des solutions nouvelles et conséquentes afin de faire face aux problèmes majeurs de santé dans les pays les plus pauvres. tel est le cas notamment pour la malaria et les autres maladies parasitaires ou virales. J'ai fait le rêve que l'Union européenne puisse prendre l'initiative, seule ou avec d'autres économies majeures, d'investir à la mise en place des capacités durables dans les pays en voie de développement et notamment en Afrique, pour permettre à ces pays de prendre une part active à la recherche fondamentale. Un projet pilote pourrait être lancé en sélectionnant un ou plusieurs pays d'Afrique disposant de bonnes écoles et d'une saine gouvernance, d'un corps de scientifiques bien formés, sur place ou à l'étranger, et d'au moins une université ou institution de recherche qui pourrait être renforcée pour devenir un centre d'excellence. Un tel centre pourrait réunir des scientifiques africains et des scientifiques des pays développés de tout le monde autour de projets de recherche ambitieux. Après la création récente du Conseil européen de la recherche, pourquoi ne pas songer à celle d'un centre d'excellence en Afrique avec le soutien de l'Union européenne? Merci.
Je remercie mon confrère pour son discours. Je vous propose d'interrompre un instant le fil de cette séance pour écouter l'ensemble Trombomania, lauréat de tous les plus grands concours internationaux. Le concours d'ensemble de cuivre de la ville de Passau, ville où est né notre confrère, le cardinal Joseph Ratzinger, qui a été élu pape sous le nom de Benoît XVI. Le concours prestige des cuivres de la ville de Guebwiller, référence mondiale en la matière. Ou encore le concours de musique de chambre d'Osaka. Cet ensemble va interpréter le premier mouvement du concerto en la mineure, arrangé pour cinq trompettes, de Joseph Baudin de Boismortier, membre de l'Académie royale de musique, ancêtre de l'Académie des beaux-arts. Thank you. maintenant la parole à Monsieur Emilio Marin, délégué de l'Académie des inscriptions et belles-lettres et également membre de la Pontificia Accademia Romana di Archeologia au Saint-Siège, pour son discours intitulé « Le curé de campagne et le prix Nobel face à l'histoire ou l'enjeu de l'Europe et de la Méditerranée ».
Madame le secrétaire perpétuel, Monsieur le chancelier, Monsieur le secrétaire perpétuel, Mesdames, Messieurs, chers confrères, dans une lettre de Cicéron envoyée en 46 avant Jésus-Christ à Publius Sulpicius Rufus, qui commandait les troupes stationnées en Dalmatie, on lit cette requête. Mon esclave Denis, qui s'est occupé de ma bibliothèque, un joli capital, a subtilisé bon nombre de livres. Pensant qu'il ne s'en tirerait pas impunément, il a pris la fuite. Il est dans ta province. Marcus Bolanus, habitué de ma maison, et bien d'autres l'ont vu à Narona. Mais l'entendant dire que je l'avais affranchi, ils l'ont cru. Si tu peux faire en sorte qu'il me soit rendu, je ne saurais dire à quel point cela me sera agréable. Récemment encore, on aurait pu croire que Cicéron se trompait. On aurait eu du mal à imaginer le départ absurde d'une bibliothèque dans une région qui apparaissait à nos yeux comme un dessert. Mais les recherches nouvelles ont montré le développement de Narona dès le IIe siècle avant Jésus-Christ. C'est l'horizon chronologique qui avait été proposé par notre confrère Jean Marcadet pour le fameux relief dit des danseuses. Et nos fouilles de 1995 au 1999 rapportent à la même époque le cadre urbanistique et architectural de la ville. Rempart hellénistique de la ville haute, agora pré-romaine, des édifices contournant le temenos de l'Augusteum en bordure occidentale du Forum. Au demeurant, Narona a fourni le groupe le plus nombreux que l'on connaisse dans le monde romain, d'effigie de la dynastie impériale du 1er siècle de notre ère, et les seuls textes conservés de l'Antiquité locale sont les inscriptions latines. Un double héritage, général et particulier, entre ainsi dans la composition du passé historique de la ville. En 1825, Barisha Eresh, curé de la paroisse de Vide, construisit une maison sur les vestiges d'une tour faisant partie des remparts de Narona du IIe siècle avant Jésus-Christ. Dans les murs de cette maison, il intégra des inscriptions latines dont une douzaine ne sont pas, à proprement parler, authentiques. Il s'agit de copies d'après des originaux dont certaines furent ultérieurement envoyées à Zadar, en Dalmatie septentrionale, où se créait un nouveau musée archéologique. Dans la fin du XIXe siècle, quand il préparait l'étude des inscriptions de Narona et leur publication dans le Corpus Inscriptionum Latinarum, notre confrère Theodor Mommsen a émis à l'égard du curé Eresh des jugements sévères en l'accusant d'avoir voulu tromper le lecteur en introduisant les nouvelles lettres au détriment des anciennes. Ubi litterae obscure essent, a se interpolatos, aliorum ibi poneret exempla, a se exarata archetypis divenditis vel pessum datis. Aujourd'hui, en revanche, la recherche moderne En analysant la démarche de deux hommes, comme je l'ai fait en collaboration avec Gianfranco Paci, Marc Mayer et Isabelle Roda, à réhabiliter le curé de campagne face aux objections du prix Nobel de littérature en 1902. En réalité, l'amalgame des copies et la manipulation des textes pratiqués par le curé Erech, à un degré d'ailleurs bien moindre que ne prétendait Mommsen, n'était pas une opération arbitraire. Mommsen ne considérait que la lettre des inscriptions, sans tenir compte de la nature des monuments, ni des motifs qui inspiraient l'action du curé Erech. Quand celui-ci se trouvait devant une inscription claire, il l'a copiée telle qu'elle. Dans le cas contraire, et s'il croyait nécessaire d'introduire un complément, il le faisait sans chercher à tromper le lecteur. L'essentiel était pour lui de sauvegarder in situ le souvenir du corpus épigraphique de Narona. Le mérite lui en revient. En 1861, la fondation à Zagreb de l'Académie des sciences et des arts des Slaves du Sud, œuvre de l'évêque de Bosnie, Djakovo, et de Srijem, Josip Juraj Strossmayer, marque une date capitale. Strossmayer, un croate dans la pire des Habsbourg, s'est illustré non seulement à Vienne, mais à Paris, où il devint l'ami de l'archevêque Monseigneur Georges Darbois, et entra dans le même groupe minoritaire que les évêques français au Concile de Vatican I. À Zagreb et à Djakovo, son siège épiscopal dans la plaine de Slavonie, la Pannonie croate, il tenta de répandre parmi les Slaves ces tendances écuméniques en y impliquant à la fois son cœur enraciné dans sa propre patrie et son esprit dominant des territoires beaucoup plus vastes, au point d'exercer son influence également à Rome. Depuis le XVe siècle, la Dalmatie abritait des cercles humanistes propres à développer l'érudition à l'égard de l'héritage de l'Antiquité classique. Issu de ces milieux, né à l'époque marquée par Strossmayer, Mgr Frane Bulić, qui fut notre correspondant étranger, s'appliqua sans hésitation, dans ses recherches, à affirmer tout ensemble son identité nationale et l'universalité de l'esprit scientifique. L'érudition, qui est à l'origine de la société savante dalmate, m'incite à citer ici quelques auteurs qui latines scripserunt et qui, à partir de leurs expériences particulières, ont acquis une stature universelle. Marcus Marulus, 1450-1524, originaire de Split, la ville de Dioclétien, s'intéressa aux ruines de Salon et prépara un ouvrage sur l'épigraphie romaine, In Epigrammata Priscorum Commentarius. Antonius Ferrantius, né à Šibenik en 1504, fut ambassadeur du roi hongro-croate Ferdinand Ier à Constantinople et dans l'Asie mineure. On lui doit la découverte du Monumentum Anchiranum, et il mourut cardinal en 1573. Marcus Antonius de Dominis, 1560-1624, fut archevêque de Split, Dalmatie et Croatie primas. Auteur d'un ouvrage monumental, De Republica Ecclesiastica, il parcourut l'Europe et passa en Angleterre, où il fut nommé doyen de Windsor. Mais l'écuménisme de sa vie et de son œuvre lui valut d'être condamné par le Saint-Office et ses écrits furent brûlés. Johannes Lucius, 1604-1679, né à Trogir, a laissé un ouvrage capital pour le début de la recherche historiographique croate, Des Regno Dalmatie et Croatie, paru en 1666 à Amsterdam. Un bénédictin, né à Dubrovnik, devenu membre honoraire de notre académie depuis 1715, Dom Anselme Banduri, mort à Paris en 1743, fut un byzantinologue et un numismate éminent. Que l'esprit savant universel ne soit pas en opposition avec l'identité nationale, permettez-moi de vous en parler d'après mon propre exemple. Quand je travaillais à l'organisation du 13e congrès international d'archéologie chrétienne, tenu à Split et à Porrec en 1994, au moment de la naissance d'un nouvel État indépendant en Europe, doté d'une forte identité nationale, la Croatie. Dans des circonstances difficiles, 400 congressistes sont venus de quelques 28 pays. La recherche n'a pas de frontières et même en temps de guerre, la permanence du travail scientifique est un gage pour l'avenir. En œuvrant ainsi, nous nous trouvons aux racines même de notre culture qui doit être entendue au sens large comme culture européenne. Comme disait Jean-Paul II, parlant aux diplomates en 1981, il existe une souveraineté fondamentale de la société qui se manifeste dans la culture de la nation. Ce n'est l'écho d'aucun nationalisme, mais il s'agit toujours d'un élément stable de l'expérience humaine et des perspectives humaines du développement de l'homme. Nous parlions de Erech et de Mommsen, un curé de campagne et un prix Nobel face à l'histoire. Leurs points de vue respectifs ne doivent pas être nécessairement opposés. Dans la mission du savant, ce sont des jalons sur le chemin de la recherche, tout comme les histoires racontées de génération en génération par hommes et femmes auxquels se référait Ivo Andrić dans son discours du prix Nobel de littérature en 1961. En des milliers de langues, sous les climats les plus divers, de siècle en siècle, c'est l'histoire de la condition humaine dont se tisse la trame et que, sans fin ni trêve, les hommes racontent aux hommes. Mais ne perdons pas de vue l'avertissement de Paul Ricoeur. C'est sur le chemin de la critique historique que la mémoire rencontre le sens de la justice. Que serait une mémoire heureuse qui ne serait pas aussi une mémoire équitable? Curieusement, Erech, le curé de campagne, fit inscrire en croate sur le linteau de sa maison tour de Narona en 1825 le passage de l'évangile de Luc, où Jésus établit justement la relation entre le cœur et l'esprit. L'homme bon, de bon trésor de son cœur, tire ce qui est bon. Et celui qui est mauvais, de son mauvais fond, tire ce qui est mauvais. car se dit trop plein du cœur que parle sa bouche. Permettez-moi encore, au titre d'ambassadeur de Croatie près le Saint-Siège, d'ajouter une autre citation. Notre confrère Josef Ratzinger, à la veille de la disparition de Jean-Paul II et de sa propre élection au siège épiscopal de Rome, traité à Subiaco le 1er avril 2005, de l'Europe dans la crise des cultures. Il déclarait : Nous avons besoin d'hommes dont l'intelligence soit éclairée par la lumière de Dieu et auxquels Dieu ouvre le cœur de façon à ce que leur intelligence puisse parler à l'intelligence des autres et que leur cœur puisse ouvrir le cœur des autres. Et j'ajouterai encore un troisième point de vue, celui de la Méditerranée. Dans l'été, Albert Camus s'exclame : Non, décidément, n'allez pas là-bas si vous vous sentez le cœur tiède et si votre âme est une bête pauvre. Mais pour ceux qui connaissent les déchirements de oui et du non, de midi et de minuit, de la révolte et de l'amour, pour ceux enfin qui aiment les bûchers devant la mer, il y a là-bas une flamme qui les attend. Cependant, le poète tchèque Jiří Walker, n'ayant pas au moment de son premier rencontre sur une île adriatique croate reconnu la mer qu'il avait imaginée splendide, a fini par rejoindre ses merveilles seulement le septième jour, et cela dans les yeux des marins. Face à l'héritage, le nôtre, l'européen et le méditerranéen, on est aussi toujours saisi par le point de vue particulier, expérimenté et d'une ou l'autre manière vécu, réalisé dedans la personne ou dedans les personnes. Et celui universel et savant, nous avons besoin des deux, car la réalité est composée des deux. Toute l'Europe n'est pas Méditerranée, et toute la Méditerranée n'est pas Europe. D'où l'importance essentielle des zones où se rencontrent l'Europe et la Méditerranée. Les relations s'établissent selon des axes bien connus, toujours les mêmes, passant par la France, l'Italie, la Grèce, l'Espagne et également la Croatie. Il reste que ces axes particuliers devraient s'attendre à l'universalité de la communauté. Le continent européen gagnerait à s'appuyer davantage sur la Méditerranée et dans ce processus, les villes depuis l'Antiquité ne cessent de s'avérer des jalons décisifs. Après les découvertes du XVIe siècle, l'Europe s'est constituée en se détachant de la Méditerranée pour ensuite se précipiter vers de nouveaux continents et de nouvelles mers. Après les découvertes du XXe siècle, l'Europe, affaiblie par deux terribles guerres, s'est resserrée et a instauré l'Union européenne, qui, heureusement, n'a pas hésité à embrasser les villes méditerranéennes et les villes continentales. L'enjeu décisif de la globalisation européenne sera maintenant de retrouver la Méditerranée. Ainsi sera jeté un pont entre ces identités du cœur et l'universalité de la raison, en gardant les unes et l'autre pour ce monde du nouveau siècle
qui est le nôtre. Je vous remercie.
Merci, chers confrères. Il me revient maintenant de prendre la parole pour un discours intitulé « La langue française, de l'identité à l'universalité ». Ce qui fait le mérite de la France, son seul mérite, son unique supériorité, c'est un petit nombre de génies sublimes ou aimables qui font qu'on parle français à Vienne, à Stockholm ou à Moscou. Dans cette phrase écrite à Madame du Deffand le 12 septembre 1760, Voltaire rassemble deux conceptions de la langue française. Celle du génie de leur langue, dont les Français ont tiré la confiance qu'ils avaient en eux-mêmes, donc la conscience qu'ils avaient d'eux-mêmes. Celle de son aptitude naturelle à l'universalité. Ces conceptions méritent une réflexion au miroir de la longue histoire de notre langue. Quand s'est-elle affirmée, telle que l'aperçoit Voltaire? Depuis quand a-t-elle pu se mesurer à la langue d'oc et au dialecte de la langue d'oil et se comparer à la langue du pape? On peut certes remonter au XIIe siècle, lorsque Fabliau et Chanson de Geste témoignent que le français, langue de Paris, commence déjà à s'élever au-dessus des autres dialectes du domaine royal et à se confondre avec lui. On peut aussi rappeler qu'au-delà de ce domaine, les croisades ont porté le français au loin. Mais c'est vraiment au XVIe siècle que commence l'aventure moderne du français. L'ordonnance de Villers-Cotterêts a été souvent considérée comme le moment décisif de l'instauration officielle du français dans le royaume. Mais au vrai, elle s'inscrit dans une longue histoire de politique de la langue développée par les rois au fil des changements affectant la population française et l'environnement international du pays. Au XVIe siècle, dans toute l'Europe, on réfléchit aux langues vulgaires, à leur place face au latin qu'on ne tient plus systématiquement pour langue de culture et de communication du savoir. Cette réflexion est partie d'Italie dès la fin du XVe siècle. Elle a gagné tout naturellement la France, où après la fin des guerres, François Ier a fait venir de nombreux artistes italiens, transformant sa cour en petite Italie. Mais l'intérêt porté à la langue vulgaire a aussi été le fruit d'une vision politique. Le roi était conscient de l'ignorance des élites et de la nécessité de les instruire. Il constatait dans le même temps qu'il fallait rendre la langue administrative et celle des tribunaux compréhensibles à tous ses sujets. Le latin et les langues locales ne pouvaient répondre à ces deux préoccupations, alors que le développement rapide de la France à cette époque imposait une solution. La France est au XVIe siècle, avec ses 20 millions d'habitants, le pays le plus peuplé d'Europe. Et Paris, qui compte près de 300 000 habitants, est alors la plus grande cité du monde chrétien. Comment s'étonner que la langue de Paris, de l'Île-de-France, s'impose pour unifier le territoire contrôlé par le roi? L'usage du français dépasse vite le cadre de la justice et de l'administration, car le latin recule devant les progrès du français dans ce qui fut son espace privilégié, le savoir, la communication des connaissances. Le Collège royal, qui deviendra un jour Collège de France, sépare peu à peu le latin du français, faisant du premier une langue figée dans des règles intangibles, donc une langue morte. Et les hommes de science, tels Ambroise Paré, s'emparent du français. Le progrès du français s'effectue aussi au détriment de l'italien. Plus que l'unité du pays, c'est d'abord la progression du français et sa dignité que François Ier consacrera par l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Un siècle plus tard, la fonction du français va changer. Il faut alors restaurer l'unité nationale, profondément perturbée par la grande crise politique et religieuse qui a fait de son pays, dira Ronsard, une pauvre France. Le conflit religieux, les guerres d'un XVIe siècle qui finit tragiquement, ont en effet laissé la France ravagée, diminuée dans sa population et ses ressources, divisée moralement, doutant de l'autorité du roi, des bienfaits de l'éducation, menacée par les séparatismes et par un recul de son statut européen. Face à ce désordre général, la fascination pour la culture italienne ressurgit un moment, renforcée par l'épanouissement dans ce pays de petites académies et par le prestige particulier dont y jouit le Toscan. Il faut y ajouter l'ombre projetée alors sur la France par la puissance montante de l'Espagne, issue comme elle du monde latin et de la chrétienté. La langue française semble avoir perdu le terrain qu'elle avait gagné au XVIe siècle. Les provinces se sont isolées, repliées sur leurs racines, sur leur patois. Le latin aussi retrouve quelque vigueur grâce aux efforts d'une Église redevenue offensive et la conscience collective en est très affaiblie. Hanté par la volonté de réconcilier ses sujets, Henri IV va avec l'édit de Nantes remettre son royaume sur la voie de l'unité morale. La langue française n'est pas seulement en recul. Si la guerre civile l'avait affaiblie, Montaigne l'a porté très haut. Ses essais ont appris aux Français que leur langue était propre à la conversation, qu'elle pouvait jouir d'une grande indépendance. C'est déjà la langue du savoir-vivre en commun. Mais la conception de la langue ne fait pas l'unanimité. Malherbe va poser la question décisive de l'existence d'une norme du français. Cette norme, dit-il, c'est l'usage, un usage que nul ne peut décréter, qui est souverain et qui réconcilie la langue de la cour et celle du crocheteur du porte-au-foin. La volonté royale d'unifier le pays, de dépasser les conflits religieux, de panser les plaies, trouve alors un appui incomparable dans la définition de la langue par Malherbe, langue de l'usage commun fondant une norme où se réconcilient les usages de tous les niveaux de la société. La décision prise en 1635 par Richelieu de fonder l'Académie française, de lui confier le soin de dire l'usage, s'inscrit dans la voie ouverte tout à la fois par Montaigne et par Malherbe. Il fallait unifier les voix discordantes, donner un cadre au débat, un statut quasi légal à la norme linguistique. La langue dont l'Académie s'est vue confier le dépôt doit devenir la langue commune à tout le royaume. Elle a pour mission de servir de lien social à tous les groupes qu'il compose, de mettre fin à l'émiettement qui toujours le menace. C'est alors que la notion du génie du français prend toute sa place dans la réflexion commune. La langue doit en effet recomposer le royaume, rassembler, être le lien premier de toute la communauté. Pour être capable de jouer ce rôle, ne doit-elle pas avoir un génie particulier? Écoutons Vaugelas. Il n'y a jamais eu de langue où l'on ait écrit plus purement, plus nettement qu'en la nôtre. Ou le laboureur. Il n'y en a point qui soit plus civil, ni qui ne soit plus tendre et plus affectueuse. Ou encore le père Bourse, pour qui chaque nation a toujours parlé selon son génie. La langue française est perfection, tous le disent, mais elle doit constamment se perfectionner, sous peine de se corrompre, donc de mourir. La nécessité de s'adapter au progrès rapide du savoir entraîne au XVIIe siècle la francisation de toute la littérature scientifique. Progrès de la langue vernaculaire et progrès du savoir vont à l'heure de pair et témoignent de la vitalité du français. Au milieu du XVIIe siècle, la langue française est déjà, selon François Charpentier, celle du roi et celle de toute la France, même si subsistent encore à côté d'elle toutes les autres langues du pays. Mais le regard de Charpentier se porte surtout au-delà des frontières. La langue française, écrit-il, n'est point renfermée dans les limites de la France. Elle est cultivée avec ambition par les étrangers et fait les délices de la politesse de toutes les nations du Nord. Et il est vrai qu'au XVIIe siècle, particulièrement dans ces dernières décennies, le français s'étend à toute l'Europe comme langue de culture pour connaître un apogée au siècle suivant. La tentation ou la passion du français, dont témoignent partout les élites, se comprend aisément. La révocation de l'édit de Nantes en 1685 a incité les protestants à s'exiler en masse vers les Provinces-Unies, ou encore la Hollande, l'Allemagne, l'Angleterre. Ils y ont porté leur savoir-faire, leurs ressources, et par-dessus tout leur langue qu'ils ont enseignée. Cet exode a rencontré un terrain favorable à l'expansion du français, car dans les pays qui accueillent les Huguenots, une certaine mode française s'était déjà développée au siècle précédent. En Angleterre notamment, où avec l'arrivée d'Henriette de France, il fut de bon ton de parler français à la cour de Charles Ier. La connaissance du français était alors tenue pour une marque de civilité. Il en allait de même en Allemagne, et plus encore en Hollande, où la liberté de publier attirait les auteurs français en difficulté chez eux. Leurs ouvrages, leurs gazettes y étaient imprimés en français, puis rentraient en France en dépit des efforts du pouvoir royal pour en contrôler la diffusion. Cette mode française bénéficia aussi de la circulation des étudiants venant en France, des professeurs français invités dans les plus prestigieuses universités des pays voisins, car le latin reculant dans le monde universitaire européen, il laissait tout naturellement place aux Français. Tout a donc favorisé, au XVIIe siècle, le français en Europe. Le dépérissement du latin et certains replis culturels de l'Italie, et même le fait que la puissante Espagne se tourne alors vers des horizons plus lointains. En même temps que le français pénètre l'Europe du Nord, les conquêtes coloniales lui ouvrent aussi de nouveaux horizons, le Canada, les îles. Et en dépit de la distance et dans le cas canadien du recul politique, le français s'y maintiendra, alors que dans les pays voisins de l'Europe, on constatera deux siècles plus tard un affaiblissement de la passion dont il avait bénéficié jusqu'alors. Dans un premier temps, donc, au XVIe et XVIIe siècle, la langue française a fortifié dans la conscience collective des élites un sentiment d'appartenance au domaine royal, sentiment que partage peu à peu une communauté qui n'est pas encore tout à fait la nation, mais c'est le progrès de la langue à l'extérieur qui est remarquable dans la deuxième moitié du XVIIe siècle et plus encore au XVIIIe. L'envie du français s'étend alors à la Prusse, avec l'Académie de Berlin notamment, à la Suède et à la Russie. C'est pour les souverains de ces pays la langue d'une culture qui, par-delà les frontières des États, crée un espace européen continu de mœurs apaisées, de civilité et de modernité. Au XVIIIe siècle, la langue française est devenue universelle. L'Académie de Berlin n'a-t-elle pas mis au concours en 1782 une question provocante? Qu'est-ce qui a rendu la langue française langue universelle de l'Europe? Par où le mérite-t-elle? Peut-on présumer qu'elle conservera ce statut? Rivarol partagea le prix avec l'Allemand Johann Christoph Schwab. Parmi les concurrents, qui presque tous s'exprimaient en français, figuraient aussi Grimm et Karl Euler. Ce dernier suggéra que le français devait son universalité non à un prétendu génie ou à la perfection, mais à la puissance royale et au dynamisme démographique et économique du pays. Et il en déduisait qu'il serait vain d'imaginer la perpétuation de ce statut lié à des circonstances particulières. Génie de la langue, aux conditions favorables à son expansion, Condillac et Voltaire ont tranché. Pour Condillac, les langues les plus riches sont celles qui ont le plus cultivé les arts et les sciences. Et Voltaire constate que le français au XVIIIe siècle a véhiculé beaucoup plus que d'autres langues les ouvrages scientifiques, philosophiques ou littéraires. C'est cette instance production d'œuvres sur le fond de circonstances historiques particulières qui explique que la langue soit devenue au XVIIIe siècle le symbole d'une culture européenne, d'un idéal de tolérance mais aussi de civilité, de sociabilité et de douceur de vivre. L'universalité du français s'impose aussi dans ce temps pour les rapports entre États. Le français deviendra langue des échanges internationaux, des traités, du droit international. Sa position privilégiée, il l'acquiert une fois encore au détriment du latin. Mais cette substitution dont se glorifient les Français mérite néanmoins quelques précisions. Au XVIIe siècle, l'emploi du français pour la rédaction des traités reste encore incertain et surtout circonstanciel. On cite toujours en exemple le traité de Rastatt, rédigé en français, mais c'est au rôle joué par la France dans la guerre de succession d'Espagne, qui s'achève en 1714, qu'on le doit, et non à une règle acquise. Les traités auxquels la France n'est pas partie prenante ne recourent pas tous encore au français. La réputation du français comme langue internationale sera plutôt assurée par l'activité intense des émissaires du roi de France à travers le monde, véritable réseau constitué d'envoyés officiels, d'envoyés au statut plus incertain et naturellement d'innombrables espions. Ce qui en définitive caractérise le climat culturel du XVIIIe siècle et explique la francomanie grandissante est que le centre de gravité politique et culturelle de l'Europe a glissé alors du sud roman vers le nord. Dans ce contexte, la France est le pays où la relation entre langue, culture et destin national est peut-être la plus puissante. Dès lors que les langues circulent dans cette partie de l'Europe, le français y trouve le terrain le plus propice à son expansion. S'il est un moment de l'histoire de la culture française où la notion de francophonie apparut, c'est bien au XVIIIe siècle, même si le français n'est pas encore généralisé en France et au dehors, mais reste socialement l'apanage des élites. Néanmoins, pour une grande part de l'Europe, le français est alors synonyme de culture non plus purement française, mais de culture universelle et de valeur dont la principale est l'espérance naïve du progrès humain. La Révolution française va être marquée par une révolution de la langue et une nouvelle relation entre langue et société. Tout d'abord parce que la Révolution, qui est rupture radicale, entrée des hommes dans un monde nouveau, suppose une langue propre. La grande révolution du XXe siècle en Russie, plus organisée mais toujours en référence au modèle de 1789, a d'emblée posé le problème de la création d'une langue révolutionnaire. Les hommes de 1789, pionniers en la matière, avaient pressenti la nécessité d'une telle invention, mais ils ont tâtonné dans son exécution. Ils ont d'abord utilisé le vocabulaire existant, souvent dans une perspective de dérision, le détournant de son sens. Fascinés par l'Angleterre, ils ont aussi importé et traduit une part du vocabulaire institutionnel anglais. Ensuite, ouvrant la voie à leurs imitateurs russes de 1917, ils ont pratiqué une politique systématique de nomination nouvelle des lieux et des personnes. L'Académie, dont la vocation avait été de trier, pour dire le bon usage, est devenue alors un témoin fort encombrant de la révolution linguistique en cours. Et sa dissolution tient pour partie à cela. Mais très vite, les révolutionnaires comprirent qu'ils avaient besoin d'un outil pour rendre compte de l'invention linguistique. Et le dictionnaire de l'Académie, en cours d'élaboration, fut repris et publié en 1798. Cette édition est précieuse pour comprendre la démarche linguistique des révolutionnaires. On y ajouta un supplément de plus de 300 mots nouveaux. Ce supplément incorpore des mots apparus jusqu'alors, enragés, marais, guillotinés, mais surtout, il confère à l'ensemble du vocabulaire un contenu politique nouveau. Le plus important est qu'ici, la politique linguistique des révolutionnaires a eu pour vocation de profondément modifier l'enracinement social et géographique du français. Enracinement social d'abord. Urbain Domergue, qui se disait grammairien patriote, édité un journal de la langue française, a voulu être le rénovateur de la langue en l'ouvrant sur l'ensemble du champ social. Dans sa conception de la République des lettres, tout membre de la société avait vocation à être l'arbitre de la langue. La norme linguistique acceptée jusqu'alors, que ce soit celle de la cour ou celle de l'académie, était appelée à disparaître au bénéfice de la langue parlée par tout locuteur. La langue qu'il prônait était celle de tout le peuple. Cette conception d'une langue ouverte à toute la société, bien commun et création commune de tous sans distinction de classe ou de sexe, se heurtait cependant à une réalité bien visible, celle de la géographie. À la campagne, le patois était l'usage. C'est ici que l'abbé Grégoire joue un rôle décisif en insistant sur le rapport de la langue avec l'ensemble du corps social. Dès 1790, il avait engagé une vaste enquête sur les parlers des campagnes qui débouchait sur un rapport remis à la Convention où était affirmé la nécessité d'anéantir les patois et d'universaliser la langue française. Pour l'abbé Grégoire, le morcellement du pays par l'usage du patois était le fruit d'une volonté politique de contrôle de la société par le pouvoir royal. La volonté de justice et le projet généreux de donner à tous la possibilité d'étudier, donc l'accès au progrès, imposaient les conclusions du rapport de l'abbé Grégoire. L'enseignement primaire, dont la généralisation fut un grand objectif révolutionnaire, pouvait-il exister sans que le français en fût la base ? Jusqu'alors, le français avait été un outil puissant d'identification des élites, de la société urbaine. La Révolution voulut lier le destin de la nation entière à celui de la langue. En 1793, la vision de l'abbé Grégoire était certes rationnelle, légitimée par son souci de généraliser l'éducation, mais elle était utopique à court terme. Elle ne résistera ni aux changements politiques qui suivirent, ni surtout au poids des habitudes et aux attachements aux parlers locaux. Il faudra attendre que l'œuvre éducative de Jules Ferry produise ses effets pour que le français devienne réellement langue de tous et progressivement fondement du sentiment d'identité nationale. Le XXe siècle confirmera le recul continu des patois qui subsisteront sous forme d'attachement au passé, de curiosité pour les racines, sans interférer réellement avec le lien institutionnel. L'université de la langue française est peut-être moins assurée, soumise en tout cas, comme l'avait entrevu l'un des vainqueurs du concours de Berlin, aux aléas historiques. La France est devenue terre d'immigration plus que de migration. L'Empire a disparu. La langue transnationale que fut le français au XVIIe et XVIIIe siècle a, comme le latin, dû reculer sous les coups d'une autre langue, l'anglais, parce que le centre de gravité du monde s'est déplacé au cours du siècle passé, de l'Europe vers le puissant empire américain. Mais ceux qui, au XVIIIe siècle, liaient la position universelle du français à la puissance royale seraient déconcertés de constater qu'au XXIe siècle, alors que la France n'est plus la très grande puissance, que l'Europe elle-même est dépassée par la puissance américaine et menacée de l'être par les sociétés d'Asie, la francophonie atteste d'une persistance de l'envie du français à travers le monde et reste une des formes d'universalité. Au XXIe siècle, ni la puissance politique, ni la richesse, ni même le poids démographique remarquable des siècles passés ne peuvent expliquer la pérennité de l'envie du français et l'existence de cette communauté d'esprit qui se nomme francophonie. Le monde moderne est moins préoccupé qu'il ne le fut de la conversation, de la civilité, de la convivialité et de l'élégance, toute composante du prestige du français hors de ses frontières. Et pourtant, la francophonie qui unit aujourd'hui des centaines de millions d'hommes à travers un nombre considérable de pays témoigne d'une étonnante vitalité, d'autant plus étonnante qu'elle ne repose ni sur l'obligation, ni sur des pressions, ni sur des intérêts matériels. Le seul fondement de la francophonie est le choix, la passion d'une langue, qui est associé à des valeurs indépendantes d'une nation particulière, le respect de l'altérité, l'esprit de liberté, la tolérance et la défense du plurilinguisme. Le français a au fil des siècles permis à des hommes vivant sur un même sol de prendre conscience de ce qui les unissait au-delà de la différence des statuts, des coutumes, des parlers, et contribué à faire de ces peuples une nation. Cette même langue française soude aujourd'hui une communauté d'hommes dispersés dans l'espace, divers par leurs origines, leur culture, leurs aspirations, leur langue. C'est là peut-être que la langue française prouve une nouvelle fois son aptitude à rassembler autour d'une identité inédite, la francophonie, et à rayonner dans l'univers, donc son universalité. Merci. Avant que la séance ne soit levée, nous entendrons une dernière fois l'ensemble Trombomania. Nous écoutons donc le troisième mouvement du concerto en la mineur de Joseph Bodin de Boismortier, arrangé pour cinq trompettes. Je tiens à adresser aux jeunes trompettistes qui le composent tous mes vœux pour la poursuite brillante de leur carrière. Ils sont exceptionnellement accompagnés de M. Guy Touvron, que je tiens également à remercier pour le concours qu'il a bien voulu apporter à cette séance solennelle de rentrée.
Vous venez d'entendre la retransmission de la séance solennelle de rentrée des 5 académies qui s'est déroulée le 23 octobre 2007 sur le thème « Identité nationale et universalité de l'esprit ». Cette année, exceptionnellement, les associés étrangers des 5 compagnies qui composent l'Institut de France étaient invités à s'exprimer sous la coupole.